Inclinons notre tête un moment pour la prière. Comme cette musique joue doucement à travers ces haut-parleurs, crois seulement. Je me demande si nous avons des requêtes ce soir que nous voudrions faire connaître à Dieu. Et avec nos mains levées, nous promettons que nous allons croire en levant les mains. Le Seigneur vous bénisse. Notre Père céleste, nous nous approchons de toi au nom du Seigneur Jésus, parce que tu as promis que si nous le faisons de cette façon, tu nous entendrais. Et nous prions pour que tu reçoives nos besoins dans ta sagesse, Seigneur, et que tu nous récompenseras selon notre foi. Nous savons que tu le feras parce que tu l'as promis. Il y a beaucoup de requêtes, beaucoup de mains s'étaient levées, la mienne aussi, Seigneur. Je prie que tu nous rencontres ce soir et nous montres la façon que nous devrions vivre et ce que nous devrions faire pour avoir foi en toi. Reçois la gloire de ce service, Seigneur, comme nous entends. Remettons à toi au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Don, comment vas-tu? Je suis certainement surpris ce soir de voir plusieurs de mes amis assis ici sur l'estrade avec moi. Frère Leeville était l'un des organisateurs. Frère, très bien, je ne peux pas prononcer ce nom allemand, Eisholzer. Je le dis toujours à l'envers, frère Don Ruddle et tous les frères ici, tout le monde. Je les connais tous, donc je suis comblé de les avoir ici ce soir pour prier avec nous pendant que nous prêchons la parole et en priant pour les malades. Maintenant, je pense que demain soir, puis dimanche après-midi là-bas, puis samedi ce soir, ce sera ailleurs. Vous priez aujourd'hui? Bien. Je suis désolé que vous avoir gardé cet hier soir. Mais c'est un nouvel endroit, tout était nouveau. Et vous savez, il faut un peu de temps pour s'habituer les uns aux autres. Comme je l'ai dit souvent, pardonne l'expression, faire partir tous les fantômes pour arriver à nous connaître, alors nous, tous les étranges sentiments. Vous voyez parfois des endroits où, sans manquer d'égard à cet auditorium, mais voyez-vous, ce ne sont pas toujours des services religieux. Je pense que ce qui se passe ici, il y a toutes sortes de services. Et là-bas, aussi étrange que ça puisse paraître, mais il y a un esprit dans tout. Si vous n'avez pas d'esprit en vous, vous êtes mort. Et les gens avec des esprits différents se rassemblent ensemble. Jésus ne pouvait pas guérir parmi une foule comme ça. Il est venu dans sa propre Paris. Ils ne l'ont pas reçu. Il ne put faire aucun miracle puissant. Un jour, il a dû conduire un homme qui était aveugle sur le chemin hors de la ville afin qu'il puisse faire en sorte qu'il soit guéri. Et un autre qui était sourd. Voyez, quelquefois, vous devez vous réunir là où les croyants sont rassemblés et croient. Et ce lieu est maintenant dédié au service du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une église maintenant, tout autant une église partout où les gens se rassemblent, cette église. Donc, maintenant, ce soir, nous ressentons que nous sommes très, très privilégiés d'être ici pour nous rassembler avec vous tous pour prier et reconnaître Jésus-Christ parmi nous. Maintenant, vous savez, les presbytériens ont beaucoup, et les épicapiens et les épiscopiens se croient que de haut en bas, ils se lèvent, disent quelque chose, s'asseoir, se lèvent, disent quelque chose, s'assoient. Et je vais vous demander de vous lever encore pour que je lis la parole. Dans Luc, chapitre 24, écoutez attentivement maintenant, c'est une écrise. Écriture plutôt longue, je voudrais commencer par le verset 13 dans Luc 24. En voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'en tenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Pendant qu'ils parlaient, ils discutaient, Jésus s'approchait. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi leur dit-il? Il leur répondit, « Ce qui est arrivé. » Au sujet de Jérusalem, qui était prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. » Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Il a disparu de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Prions. Seigneur Jésus, nous savons que c'est vrai. Il n'y a rien dans le monde plus vrai que ta parole. Il n'y a rien dans le monde plus grand que ta parole. Et nous prions pour que tu nous révèles cette histoire dans nos cœurs ce soir et que cette partie de l'Écriture revive encore ce soir afin que nous puissions reconnaître le Seigneur Jésus comme ils l'ont fait. Seulement, ils l'ont reconnu un jour après sa résurrection. Et maintenant, puissions-nous le reconnaître après 2000 ans? Nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Asseyez-vous. Merci pour le petit panneau de bienvenue en arrière de l'église, l'auditorium. Mon sujet ce soir est « Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent ». Maintenant, notre scène ce soir se passe à la première Pâque. Le grand jour sombre de la crucifixion était passé. Notre Seigneur Jésus était venu au monde. Il s'était clairement identifié comme le Fils de Dieu. Toutes les Écritures en rapport avec lui, il les avait accomplies. Même les dernières heures sur la croix avaient été accomplies. Maintenant, la résurrection était venue, ce qui avait aussi été promis. Mais les gens de ce jour-là étaient un peu comme nous le sommes aujourd'hui. Ils l'avaient dans l'enthousiasme de ce qu'ils avaient vu, le surnaturel et tout. Ils n'avaient pas reconnu toute l'Écriture en rapport avec lui. Et ils en avaient reconnu certaines et ont cru, mais certaines autres, ils ne les avaient pas reconnues. Je pense que c'est tout à fait comme aujourd'hui que plusieurs fois, nous accepterons certaines choses que Jésus a dites, mais pas toutes les choses qu'il a dites. Les gens parfois en viennent à dire, « Eh bien, nous croyons ceci, mais nous ne croyons pas cela. Eh bien, vous ne pouvez pas croire ceci sans croire cela. Voyez, vous devez la croire entièrement. C'est entièrement Dieu, ça n'a rien de Dieu. Et puis, tout doit être placé directement à sa place. Comme je l'ai dit hier soir, Dieu a loué que ces Écritures, dès le début, avant que le temps soit, quand il était éternel. Il est celui qui est éternel. Et puis ces choses qui se passent maintenant ne sont que les attributs de la pensée de Dieu. Premièrement, ça devait être une pensée, et ensuite une parole. Et une parole, lorsqu'une pensée est exprimée, c'est une parole. Et puis, une fois prononcée, elle doit se produire. Et le tout est Dieu qui se dévoile dans ses attributs. Et puis, Dieu devenu physique, palpable, à qui on peut parler avec, dans le corps entier de son Église et tout. Par conséquent, votre nom était dans sa pensée. Voilà comment vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez pas l'avoir autrement. Si vous avez la vie éternelle, vous l'avez toujours eue. Voyez? Vous autrement dit, vous ne pouvez pas dire, « Eh bien, j'appartiens à l'Église, je fais cela. » Non, monsieur, la vie éternelle n'a jamais eu de comment. Tout ce qui est éternel n'a jamais commencé et ne peut pas finir. Alors, vous étiez seulement dans sa pensée, votre nom, qui vous êtes et ce que vous êtes. C'est la seule façon que vous pouvez avoir la vie éternelle, parce que vous l'avez toujours eue. Et c'est peu importe ce qu'ils sont, ils sont éternellement morts, ils étaient morts depuis le début. La Bible dit, « La femme qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. » C'est vrai. Vous voyez, elle a toujours été morte. Elle est morte dans le péché et les offenses. Maintenant, si vous étiez dans l'action vivifiante à ses débuts, c'est ce qu'il est venu racheter. Et votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau, dans sa pensée au commencement. Et il est venu pour racheter tous les noms qui sont dans le livre, pas un de plus, jusqu'à ce qu'il se trouve là. Lorsque le dernier nom sera racheté, il prendra son livre et réclamera ce qu'il a racheté. Maintenant, ce serait une chose étrange si nous ne pouvions pas croire tout ce qui se trouve dans l'Écriture, car tout est la parole de Dieu, tout est inspiré, chaque parcelle de cela, et nous en croyons chaque parcelle. Maintenant, cette scène glorieuse que nous avons devant nous ce soir, Jésus est ressuscité des morts au printemps se promenant. Du printemps avec surgit la résurrection. La première fleur a ressuscité des morts, notre Seigneur Jésus. Il était les prémices de ceux qui dormaient. La fleur de Pâques qui s'est levée, la première a relevé sa tête après la froideur de la nuit et les ténèbres du péché. Il avait payé le prix du péché et Dieu l'a relevé le troisième jour. Nous croyons cela de tout notre cœur. Dieu l'a ressuscité le troisième jour selon sa promesse. Et nous y croyons selon l'Écriture qu'il l'a ressuscité le troisième jour. Il était le premier à ressusciter des morts, des prémices de ceux qui dormaient. Il dit, pensez, cette grande détresse à travers ces 4000 ans où le monde avait erré dans le péché et ne sachant pas comment en sortir, voici ce qu'il revient d'entre les morts. Quelle heure par un printemps! L'Église aurait dû chanter des Alléluia glorieux, mais au lieu de cela, il se morfondait triste et tout parce qu'il ne croyait pas tout ce qu'il avait dit. Et c'est la même chose ce soir, parce qu'il ne croit pas tout ce qu'il a dit et promis. C'est pour cela que l'Église est dans une telle condition ce soir. C'est parce que nous avons négligé de croire tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Toutes les Écritures qui s'y rapportent, nous ne les croyons pas toutes. Nous en faisons le tour, nous les confondons et y ajoutons quelque chose. Si nous croyons la chose entière, il y aura une source de joie dans nos âmes parce que nous sommes ressuscités avec lui dans la similitude de sa résurrection, maintenant assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avec toutes les principautés, les puissances et les ténèbres sous nos pieds. Nous avons un droit par le sang de Jésus-Christ, notre signe que nous sommes rachetés par Dieu. Dieu a payé notre rédemption par Jésus-Christ et nous avons le droit de tenir ce signe sur tout ce que nous demandons et de le recevoir. Dieu l'a dit, cela règle la question si nous pouvions seulement croire toutes les Écritures. Mais la chose était que, la partie triste, beaucoup de gens qui l'avaient connu et l'avaient aimé n'ont pas reconnu qu'il était ressuscité des morts. C'est pareil aujourd'hui. Beaucoup de gens qui croient et même enseignent qu'il est ressuscité des morts ne le reconnaissent toujours pas. Ils ne peuvent certainement pas comprendre. Et c'est trop comme phénoménal. C'est trop inhabituel. Les choses inhabituelles se trouvent où Dieu est, si c'est selon sa promesse. Beaucoup l'ont aimé et ne l'ont pas su. C'était absolument trop inhabituel pour eux de croire de ce que les témoins qui revenaient du tombeau avaient déclaré. Nous avons vu une compagnie d'anges qui a dit « Il est ressuscité des morts. » Oh bien, Voyez, si seulement il avait examiné l'Écriture, il l'avait promis qu'il le ferait. Et comme chez les pharisiens et les enseignants religieux de son temps, si seulement ils avaient regardé dans les Écritures comme il avait dit, sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui témoignent de moi, qui disent qu'il en est. Et si les disciples de ce jour-là avaient simplement regardé dans l'Écriture, ils auraient trouvé dans l'Écriture qu'il avait promis de ressusciter. Et Dieu avait promis de le ressusciter, et il l'a fait. Pourtant, sa parole promise était écrite qu'il le ferait pour eux. La parole déclarait qu'il ressusciterait. Il l'avait promis, mais pourtant il était triste et abattu et tout. Il pensait avoir perdu tout ce qu'ils avaient et tout ce qui avait échoué. C'est alors la personne qui, je suppose, de toute leur vie, ils avaient eu espoir en lui. Ils avaient cru en lui. Il avait eu sa grande manifestation de miracles, de signes, de prodiges et toute la confirmation du Messie. Et puis le voir suspendu là et mourir et avoir du crachat sur son visage, avoir alors qu'il pouvait discerner les pensées du cœur des gens. Mais je dis ceci avec une expression mondaine, pardonnez-moi, mais dans les moments cruciaux, c'est là que vous gardez la foi. Quand ils ont mis un bandeau autour de son visage, ces soldats ivres ont mis un bandeau sur ses yeux, ils ont pris un roseau et l'ont frappé sur la tête, ils ont dit, maintenant, on dit que tu es un prophète. Si tu es un prophète, ils se passaient ce roseau l'un à l'autre, ils disaient, dis-nous qui t'a frappé, nous allons le croire. Voyez, il semblait qu'il y avait été pris au piège, il pensait que si lui disait quoi que ce soit, il les frapperait d'aveuglement, il les frapperait de mort. S'il disait quoi que ce soit, voyez, ce n'est pas toujours la façon de Dieu de faire les choses, voyez. Quand il était sur la croix et que Caïphe, les prêtres disaient tous, si tu es le Christ, dis-nous, là clairement, descends de ta croix et nous le croyons. Voyez, ici, il ne pouvait tout simplement pas comprendre comment Dieu pouvait aller sur la croix et mourir, mais c'était la raison pour laquelle Dieu a été fait chair, afin qu'il puisse mourir. Les pharisiens lui ont fait le plus grand compliment qu'il ait jamais eu, quand ils ont dit que d'autres, il ne pouvait pas, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Certes, c'était un compliment. S'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Il devait se donner lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu a été fait chair afin de mourir, afin qu'il puisse souffrir et prendre la condamnation sur lui-même. Il ne pouvait pas le faire tant qu'il était Jéhovah dans l'esprit, Dieu le Père en esprit, ne pouvait pas le faire. Mais quand Dieu a été fait chair et a habité parmi nous, un être humain, alors il a pu goûter la mort et prendre la condamnation qu'il avait mise sur tous les êtres humains. Il l'a prise sur lui-même et a payé le prix. Pourtant, sa parole promise parlait de cette résurrection, mais il ne comprenait pas qu'il en serait ainsi. Il ne pouvait pas absolument pas y arriver. La parole était la confirmation de sa promesse. Jésus parlant à Cléopas et son ami sur le chemin d'Emmaüs était la confirmation de sa parole promise. Et pourtant, ils ne l'ont pas compris. Et je peux le dire aujourd'hui, après 2000 ans d'enseignement, de croyance, il est encore vivant et les gens ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas le comprendre. La raison principale est qu'ils étaient si endoctrinés par d'autres choses, trop de soucis et trop de choses. C'est la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas le comprendre. Ils étaient trop tristes et déchirés pour le comprendre. Maintenant, remarquez qu'ils parlaient de lui. Maintenant, ils étaient en chemin vers Emmaüs, ils allaient retourner à leur ancien travail, et Pierre est allé à la pêche, et certains d'entre eux sont allés avec lui. Et Cléopas et son ami ont dit, « Eh bien, allons à Emmaüs. » C'était peut-être là où ils vivaient, un voyage d'environ un jour du sabbat, à quelques milles à travers les collines. Et en ce beau matin de Pâques, Jésus ressuscité d'entre les morts. Hop, sa parole, la parole de Dieu avait été accomplie. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, non plus que je ne laisserai pas son âme dans le séjour des morts, et je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Il était la parole, remarquez, David l'avait prononcée. Jésus a dit, détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. Voyez, le Fils de l'homme monte à Jérusalem et sera livré entre les mains des gentils, des hommes cruels, pour qu'on se moque de lui et qu'on le flagelle, qu'on le crucifie. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Il l'avait dit, cela aurait été réglé. Et si ces hommes qui lui avaient dit cela, qui connaissaient la parole, marchant sur le chemin, étaient tristes à ce sujet, pouvez-vous imaginer un tel tableau? Mais cela s'est certainement répété. Cela se produit encore. Nous découvrons, comme ils marchaient sur le chemin, une grande chose à leur sujet. Ils parlaient de lui quand il est apparu. Maintenant, c'est le problème aujourd'hui. La raison pour laquelle il ne nous apparaît plus autant, c'est parce que nous ne parlons pas assez de lui. Il nous faut parler d'autre chose. Nos différences dénominationnelles, nous devons le débattre. Nous devons parler du communisme. Nous avons toutes sortes de programmes et tout le reste. Et tout cela nous lie. Nous n'avons plus le temps de parler de lui. Le programme de l'Église, qui va être le pasteur élu, qui va faire ceci, qui va faire cela, nous parlons de tout sauf lui. Alors que nous devrions être en train de parler de lui. C'est ainsi, ça devrait être notre objectif. Ça devrait être toute notre vie. C'est en lui. J'ai dit à un homme l'autre jour, il a dit, eh bien, croyez-vous ce genre de choses? J'ai dit, monsieur, j'ai passé ma vie. C'est vrai. Je donnerai ma vie pour cela. J'aimerais avoir 10 000 vies à donner pour cette cause. J'y crois toujours. Certainement, nous devons parler de lui si nous voulons le voir. C'est comme ça, toujours. Il aurait dû le reconnaître, mais ils ne l'ont pas fait. Quand il s'est approché d'eux, il aurait dû le savoir. Rappelez-vous qu'il avait marché avec lui pendant 3 ans. Et ici, pouvez-vous imaginer ses disciples qui avaient marché avec lui pendant 3 ans, ils se promènent là avec eux, et ils sont aussi avec une chauve-souris. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'Écriture. Et pourtant, il leur avait parlé de l'Écriture. Il était là, Emmanuel, fait chair, habitant parmi eux, parmi nous. Et les pharisiens ne l'ont pas reconnu. Ils ne pouvaient pas comprendre cela. Comment cet homme, eh bien, ils l'ont crucifié. Parce qu'il disait, il a brisé le sabbat et s'est fait lui-même Dieu. C'est la raison pourquoi ils l'ont crucifié. Maintenant, nous découvrons que la raison pour laquelle ils ne l'ont pas su, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture. Maintenant, ses disciples auraient dû le connaître. Mais ils ne connaissaient pas l'Écriture. Ici, il leur a révélé, remarqué, alors qu'il commence à les accompagner. Il leur a révélé les promesses de l'Écriture en ce qui le concernait pour cet âge. Pas les promesses de l'Écriture pour l'âge de Noé. Pas les promesses de l'Écriture pour d'autres âges. La promesse de l'Écriture qui le concernait pour cet âge, qui montrait exactement qui il était. Vous voyez? Il commença par leur demander, il dit, « Pourquoi êtes-vous si triste? Eh bien, es-tu étranger ici, le regardant juste en face? Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé? Au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète approuvé de Dieu, nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Voici le 3e jour qu'ils l'ont crucifié et toutes ces choses. « Quoi? » leur dit-il, tout comme ils ne le savaient pas, voyez, ils agissaient comme s'ils ne le savaient pas. Mais maintenant, rappelez-vous, quand ils ont commencé à parler, alors il a commencé à leur révéler les promesses qui le concernaient. Il a dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses premièrement et qu'il entre dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Le Messie. Ce que le Messie devait être, quelle œuvre il devait accomplir, tout ce qu'il devait être, il leur a révélé et lui, il ne comprenait toujours pas. Si ce n'est pas une répétition aujourd'hui, il a fait la même chose et l'Église se morfond dans l'obscurité, leur révélant qui il est et ce qu'il est. Et encore, ils disent, eh bien, maintenant, je pense que mon Église enseigne, voilà, vous voyez, c'est pour ça que vous revenez à l'Écriture, sondez les Écritures, elles sont la vérité. Nous les avons tellement tordues, comment savons-nous que c'est l'Écriture, lorsque c'est une Écriture promise pour cet âge? Maintenant, il n'est pas revenu pour dire, vous vous souvenez de Moïse, ce qu'il a fait, voyez? Il a révélé l'Écriture se rattachant à lui-même pour cet âge. Il était la lumière de cet âge. Moïse était la lumière de son âge. Jérémie était la lumière de son âge. C'était la lumière de Dieu qui brillait pour la parole promise pour cet âge. Chaque âge a sa parole promise. Dieu envoie ses prophètes et révèle cette parole. Il confirme son prophète, premièrement, puis il révèle cette parole et la fait vivre. Et Jésus était le Christ. Et tout ce qui se rattachait au Christ, il l'avait confirmé. Né d'une vierge, a guéri les malades, discerné les pensées de leur cœur, tout ce qu'il était censé faire pour être le Messie. Et pourtant, ressuscité des morts, ils ne le reconnaissaient toujours pas. Ils ne le savaient toujours pas. Après que les Écritures avaient été révélées, ils ne l'ont jamais reconnu, bien qu'il était cette parole promise. Maintenant, rappelez-vous combien cela est beau, la parole qui était en train de leur révéler, de leur montrer. Ils avaient marché tout près de lui pendant 3 ans. Ils avaient reconnu qu'ils savaient qu'il avait accompli cette parole. Voici qu'ils s'en allaient marchant vers Emmaüs. Est-ce vrai? Ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas saisi. Remarquez, alors que c'est en venu au point où, après qu'il leur ait révélé sa parole et encore, il leur avait montré comment le Christ devait faire ces choses, ils ne l'ont toujours pas compris. Remarquez le reproche qu'ils ont eu, ces prédicateurs, pour ne pas avoir su et reconnu l'Écriture qui était accomplie devant leurs yeux. Remarquez ces paroles. « Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » C'était Dieu lui-même, le Messie ressuscité, marchant avec eux et les enseignant. Il a déclaré, « Ne fait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Ne savez-vous pas que ça doit être comme ceci, et ainsi, et ainsi? » Et tout au long de la journée, il leur exposait l'Écriture et encore ainsi. Il ne savait pas que c'était lui qui se tenait là. Puis il regarda autour, après avoir prêché la parole, il leur avoir dit, il leur avoir montré ces choses, il était censé arriver. Il ne comprenait toujours pas. Il a dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, voyez, croyez l'Écriture de l'heure, l'Écriture qui se rattachait à lui en ce jour-là. » Pourtant, il était avec ses disciples, mais ils ne le reconnurent pas, la parole écrite, lorsqu'ils l'ont vu manifester. Je veux laisser pénétrer cela juste un moment, voyez. Voyez, ils ne savaient pas, quand ils le lisent dans l'Écriture, que c'est une promesse pour ce jour-ci. Puis voit Dieu la manifester, ils disent encore, je me demande, même chose, voyez, exactement. Nous traitons toujours avec des êtres humains. Et nous découvrons qu'il les a sévèrement réprimandés, ils étaient des disciples, parce qu'ils ne connaissaient pas la parole. Comme elle se manifestait devant eux, ils ne la comprenaient pas. Quoi? La même chose est arrivée aujourd'hui. Mais dans l'esprit des gens, vous vous sentez peiné pour eux, parce que l'un a un groupe qui se dirige par là, et l'autre a un qui se dirige par ici. Tout ce qu'ils pensent, c'est d'en augmenter le nombre. C'est pour ça que Christ ne peut pas se révéler aux gens. Eh bien, l'Église devrait être la plus, eh bien, elle devrait être dans un état glorieux maintenant, avec la puissance de sa résurrection et de grands signes et des miracles. Au lieu de cela, ils ont tellement flirté autour de cela qu'ils entrent aveuglément dans le conseil œcuménique, qu'ils prennent la marque de la bête et ne le savent pas. C'est exactement ça, sachant que sa parole dit que cela se ferait. Ils pensent que c'est vraiment bon, que c'est gentil, qu'ils font une bonne affaire et aussi ils vont le faire. Comment deux peuvent-ils marcher ensemble? Sinon, qu'est-ce que vous, les pentecôtistes, allez faire? Vous allez devoir sacrifier votre doctrine fondamentale du baptême du Saint-Esprit pour le faire. Certes, vous le devrez, vous en êtes là. Qu'allez-vous faire quand ce moment va venir? Vous y entrerez avec insolence. Certains des dirigeants pentecôtistes, des gens du plein évangile, se tiennent dans ces conseils et s'assoient devant le Vatican et dans les hiérarchies, et ainsi de suite. Ils disent que c'est le sentiment le plus spirituel. Un homme qui est aussi engourdi à l'Esprit de Dieu, c'est ce que ça donne. Ce n'est pas étonnant qu'il ait dit, « Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce que dit l'Écriture. » Il le dirait ce soir s'il était dans un corps. Il dirait la même chose. « Oh, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à comprendre. » Comment, lorsque la parole se manifeste juste là, vous y entrez directement quand même? Même chose maintenant. Nous sommes trop occupés avec nos programmes, ils étaient trop occupés, ils écoutaient, et mais faisaient autre chose, et nous découvrons que maintenant nous allons tellement de croyances différentes, que nous avons tellement de programmes télévisés, et maintenant nous avons un mouvement anticommuniste. J'écoutais Live Line l'autre matin qui en donnait les résultats déclarés, ce communiste, eh bien vous ne pourriez jamais vous en défaire. Pourquoi? Ils sont ici depuis des années, tous ces différents programmes et systèmes, il a dit Lifeline, même dans ces campagnes comme la paralysie cérébrale et des choses comme ça dans le mouvement anticommuniste. Le mouvement anticommuniste, ce sont les communistes, l'inspire, juste pour découvrir qui est qui. Oh là là! Je ne m'intéresse pas à cela. Je suis intéressé par la venue de Jésus-Christ pour une église. Les ministres devraient être occupés à cela et à voir que les Écritures ont promis pour aujourd'hui. Je ne m'attends pas à ce que les communistes prennent le contrôle. Je m'attends à un royaume imminent, que Jésus-Christ et le millénium s'installent. Pas même absolument intéressé par le communisme ou à l'un de leurs ismes ou vos ismes religieux. Aucun d'eux. Je m'intéresse à Jésus-Christ et lui seulement. Et d'amener les gens à le voir. Il est ici, se dévoilant, montrant ce qu'il a dit qu'il ferait dans les derniers jours. Maintenant, ils ne l'ont pas compris. Ils étaient trop occupés. Pourtant, ils prétendent aujourd'hui croire qu'il est ressuscité des morts. Tout le monde, vous croyez qu'il est ressuscité des morts? Ceux qui prétendent réellement être chrétiens le croient. Or, ils peuvent venir alentour et faire exactement ce qu'il a dit qu'il ferait après sa résurrection. Et quand même, ils ne le voient pas. Oui, monsieur. Oh, c'est la vérité. Ils ne le voient toujours pas. Les credos, les programmes éducatifs, ils voient leurs ministres, ils sont si instruits. Ça les aveugle. Ils sont si aveuglés par leur théologie humaine qu'ils sont hors de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit hier soir, Dieu n'a besoin d'aucun interprète. Je ne peux pas interpréter sa parole et personne ne peut interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Quand il dit qu'il ferait quoi que ce soit, il le fait et ça règle la question. C'est tout ce qu'il en est. Il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. C'est réglé, il n'a besoin de personne pour dire que ceci, cela ou cela, il le fait lui-même. Nous interprétons, nos interprétations ne sont rien pour l'Écriture. Il parle lui-même, c'est comme ça, au commencement, quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Cela n'a pas besoin d'interprétation, une vierge concevrait, il l'a fait. Je répondrai de mon esprit sur toute chair, il l'a fait. Ça ne nécessite aucune interprétation. Ce qu'il a dit qu'il ferait en ce jour, il l'a fait. Ça n'a pas besoin d'être interprété, ça s'interprète tout seul. Il est son propre interprète. Bon, mais nous sommes si occupés par d'autres choses que nous avons égaré nos gens. Et beaucoup de nos missions du plein évangile et ainsi de suite et les écoles font passer un test psychiatrique à un homme avant, un test mental avant, un psychologique avant qu'il puisse devenir un missionnaire pour voir si son QI est assez élevé. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Je pourrais imaginer ça dans une religion formelle et distante qui est morte il y a plusieurs années. Mais comme la Pentecôte est récente, comment ont-ils pu faire quelque chose comme ça? Avez-vous pensé qu'au QI qu'ils ont exigé au jour de la Pentecôte? La foi en Dieu, c'est ce qu'ils étaient exigés. C'est juste. C'était l'exigence. Si vous croyez, ces signes accompagneront ceux qui auront cru, a déclaré Jésus. Il n'a jamais dit de tester le QI. Il a dit aller par tout le monde, des missionnaires, faites de toutes les nations des disciples. Ces signes, ça convaincra ceux qui auront cru. C'est le QI de Dieu, que vous ayez assez de foi pour vivre ces choses, qu'elles soient réelles, Christ manifesté aux gens. Mais aujourd'hui, nous voulons les tester avec une sorte de programme pédagogique. Oh, ils ont testé Jacques Ruby l'autre jour pour cause de folie. Ils le font encore. Le monde entier est aliéné. Bien sûr, l'homme est cinglé. Aucun homme ne pourrait en tirer un autre sans être cinglé. Le monde entier est aliéné, certainement qu'il est. Le fermier, il est cinglé pour l'homme d'affaires. L'homme d'affaires est cinglé pour l'agriculteur. Qui est cinglé? L'ensemble du groupe l'est. Il n'y a qu'une seule chose sensée, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et son évangile est la réponse à tout. Nos livres de psychologie et toutes ces choses sont des absurdités. Si c'est contraire à cette parole, débarrassez-vous-en. La parole de Dieu est juste et tout le reste est faux. Nous voyons ces choses, pas étonnant que le monde soit imprégné de sang. Pas étonnant que ce soit comme c'est maintenant. C'est à chaque fois, je me demande si Oswald, qui a assassiné notre président, je me demande s'il aurait passé un test pour cause de folie. J'en doute. Voyez-vous comment un homme peut-il arriver en courant et tirant sur un autre homme, lui enlever la vie et continuer? Maintenant, je suis au Texas, je vais m'arrêter là-dessus. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Jamais le Seigneur prendrait soin de tout ça au jour de sa venue. Remarquez, vous n'avez pas le droit d'enlever la vie d'un homme. Non, monsieur. Dieu est le seul qui a le droit d'enlever la vie. C'est vrai. Regardez maintenant la parole écrite noir sur blanc, la promesse pour cet âge parfaitement confirmée, ils ne l'ont toujours pas reconnue. Remarquez qu'ils venaient juste de le reconnaître comme prophète. Jésus de Nazareth, es-tu juste? Es-tu un étranger ici? Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, ils avaient reconnu qu'il était prophète. Or, s'ils l'avaient reconnu prophète, un prophète est envoyé pour cet âge dans lequel il vit. Il doit manifester la promesse de Dieu. La parole vient au prophète. S'il était le prophète, la parole promise pour cet âge devait être manifestée par lui, mais quand même, ils ne l'ont pas vu. Ils ne pouvaient tout simplement pas le voir. Ils ont dit qu'il était un prophète, puissant en œuvre. Et ce qu'étaient ses œuvres, puissant dans la parole devant Dieu, et ainsi de suite. Il était grand et nous espérions. Israël avait leur espoir bâti sur lui. l'Israël spirituel, pas l'Église d'Israël, juste la nation. Les gens, la véritable Israël spirituel avait bâti leur espoir sur lui. Remarquez, alors qu'ils l'ont reconnu comme prophète, vers quoi est-il allé? Il a fait exactement ce que doit faire un prophète. Il est allé directement à la parole. Voyez, directement là, pour leur montrer s'il était un prophète comme il disait qu'il était. Il est allé directement leur montrer la parole promise qui le concernait pour ce jour-là. Et ils ne le reconnaissaient toujours pas. Ils ont marché tout le long, aussi aveugles qu'ils pouvaient, sans le reconnaître. La parole promise pour leur âge, il était le prophète qui manifestait cette même chose. Maintenant, regardez, il a dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire et se relève le troisième jour, ces choses qu'il devait faire, et pourtant vous ne comprenez pas? Ils auraient dû savoir qu'il y avait là un homme qui revendiquait ce qu'il disait qu'il croyait, mais ils ne pouvaient toujours pas le croire. C'est un signe certain, véritable, véritable prophète, toujours de ne pas aller à une autre parole ou d'aller à un autre, mais de prouver une parole montrant qu'il vit dans sa promesse aujourd'hui. Rappelez-vous, avant qu'il vienne, Jean est venu sur la scène. Il était un prophète. Et qu'est-ce qu'il était? Un précurseur du Messie. Puis il a dit, « Je ne suis pas le Messie. » Il pensait qu'il l'était parce qu'il était prophète. Il a dit, « Je ne suis pas le Messie. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers, mais il est debout parmi vous. » Or, Jean était certain qu'il était là parce qu'il savait qu'il devait le présenter. Son père était un prêtre. Il n'est pas allé au séminaire pour apprendre à devenir prêtre. Son travail était trop important. Il est allé dans le désert pour être seul avec Dieu. Il ne pouvait pas avoir une carte de membre de nulle part. On le disait cela ou l'autre parce qu'il était tout mêlé et influencé par l'ordre de l'homme de ce jour-là. Son travail était important. Il devait dépendre de Dieu seul car il devait annoncer le Messie. Jésus a dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Voyez? Mais ils n'y croyaient toujours pas. Le signe certain d'un vrai prophète les ramenant à la parole, ils ne comprenaient pas sa manière de parler. Et regardez, l'Écriture avait dit que cela allait arriver exactement mot pour mot comment ça serait. Même David, des centaines d'années avant cela, environ 800 ans, s'est écrié la même chose que lui sur la croix. Et sans doute que dans le temple ce matin-là, il avait chanté ce même cantique, le psaume 22, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Dans le temple, chantant cela, et le Dieu qu'il prétendait servir, il le crucifiait. C'est pareil aujourd'hui. Le Dieu qu'il prétend croire, qui se manifeste, ils le feront. Vous allez fermer toutes les portes, sans aucune coopération, ni rien d'autre. C'est contraire à leur credo. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent pour connaître le jour où nous vivons. Dieu n'a-t-il pas promis ceci pour les derniers jours? Comment cette église de Laodicée serait tiède et Jésus à l'extérieur essayant d'entrer pour avoir un peu de coopération? Qu'est-ce que Jésus? La parole véritable rendue manifeste. À l'extérieur essayant d'entrer, ne pouvant pas entrer. L'heure où nous vivons, bien sûr, aveugle, de la même manière. Jésus a dit qu'il serait comme ça. Les prophètes ont dit qu'il serait comme ça. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloignant, calomniateur, intempérant, ennemi des gens de bien, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, la puissance de sa résurrection, sa manifestation, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Il vit aujourd'hui pour toujours. Pour confirmer les choses qu'il avait dites. Je ne crie pas après vous, mais je veux que vous compreniez. C'est vrai, leurs yeux étaient encore fermés. Remarquez, même s'ils ne pouvaient pas croire, il avait quelque chose en eux. Ils l'ont invité à entrer. Il agissait comme s'il allait continuer son chemin. Il pourrait agir comme ça avec vous ce soir. Maintenant, en terminant, je vais terminer tôt afin que je puisse avoir une ligne de prière. Il peut agir comme s'il pensait près de vous sans s'arrêter. Peut-être que votre carte de prière ne sera pas appelée, mais souvenez-vous peut-être qu'il le fait pour vous donner un test aussi. Voyez, il était tout en Dieu là-bas, qu'il est ici ou ailleurs. Il le prouve jour après jour, soir après soir. Il est Dieu partout, voyez. Il est omniprésent. Rappelez-vous, il fait comme s'il passait sans s'arrêter. Ils l'ont pressé. Maintenant, ils ne comprenaient pas ce dont il parlait. Mais dans leur esprit, ils ne savaient que croire. Maintenant, il y a un bon nombre de gens comme ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens comme ça à Beaumont ce soir. Ils ne savent que croire. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la chose la plus sage que quiconque pouvait faire. Ils l'ont invité à entrer. C'est tout. C'est tout. C'est ça, c'est là, et seulement là qu'il peut se révéler. Quand il est invité à entrer, souhaitez-lui la bienvenue. Dites, Seigneur Jésus, je sais que l'Écriture dit cela. Je ne la comprends peut-être pas, mais viens dans mon cœur, je veux t'accepter, je veux te croire, alors manifeste-toi à moi. Remarquez, ils l'ont invité à entrer. Maintenant, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Tout était mélangé pour eux. Ils ne pouvaient pas le comprendre, mais quand même ils ont dit, ils l'ont invité, ils l'ont pressé, tu dois entrer. Il a dit non, je dois continuer. Oh, mes seigneurs, c'est comme ça qu'il faut faire. Et alors, quand il entre, c'est là qu'il peut se révéler. Il peut se faire connaître une fois à l'intérieur. Remarquez comment il l'a fait après sa résurrection, la véritable parole promise. Voyez, il ne réalise pas qui il était. Mais une fois à l'intérieur d'eux, alors il ouvrit leurs yeux. De la même façon que quand il est entré dans le bâtiment avec eux là-bas, il a ouvert leurs yeux après qu'il fut entré. Il a ouvert leurs yeux comment? Pense levant sa main en disant, « Ouvrez-vous, que vos yeux s'ouvrent. » Leurs yeux étaient ouverts de toute façon physiquement, comme à Dathan ou Dothan. Plutôt, c'était là-bas quand Élie était là-bas et les Syriens étaient sur eux. Et Géasi a crié, « Mon père, les Syriens sont partout. » Et Élisée, qui marchait là, a dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il a dit, « Seigneur, ouvre leurs yeux, les yeux de ce garçon. » Et autour de ce vieux prophète, sur la colline, il y avait des chars de feu et des anges de feu. Et la Bible dit, « Il a frappé les Syriens d'aveuglement. » Venez, mais ils pouvaient voir physiquement marchant dans le siège. Pouvez-vous comprendre que c'est une parole promise pour ce jour? C'est la promesse de Dieu. Dieu entre, puis ouvre vos yeux. Oh, c'est lui, n'est-ce pas? Il l'a promis. Remarquez, à l'intérieur, il a ouvert leurs yeux sur ce qu'il était. Qui il était. Maintenant, s'il peut entrer à l'intérieur de vous ce soir, dans votre ligne de foi, il peut ouvrir vos yeux pour vous montrer qu'Hébreux 13:8 est vrai, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il peut entrer, ouvrir vos yeux, il le fera pareil maintenant, tout comme il l'a fait pour cette femme au puits dont nous avons parlé hier soir. Maintenant, remarquez, elle savait par l'Écriture ce qu'il devait faire. Maintenant, c'est la bonne partie chez cette femme. Beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ne savent pas par les Écritures ce qu'il est aujourd'hui. Nous le mettons dans une mangeoire chaque Noël. Oui, nous prenons un lapin de Pâques et nous en faisons sa résurrection. Pas étonnant que nous soyons égarés, voyez. C'est vrai, pas étonnant que nous ne sachions pas où nous en sommes. Mais cette femme le savait, elle avait dans son esprit, dans son cœur, cette semence. Comme je l'ai expliqué à mon ami Jack Moore aujourd'hui, comme ces pharisiens du côté noir ici, leur cœur était noir là, ils n'avaient pas de vie pour commencer. Comme ils étaient un peu plus légers alors qu'ils montaient parce qu'ils étaient religieux. Il contribuait à garder les lois. Et quand la parole là-bas au commencement brillait à travers la parole, la Bible, pour eux, ils marchaient, mais en dedans, ils n'avaient pas la lumière. Ici, il y avait cette petite prostituée de mauvaise réputation. Premièrement, sa vie était aussi noire que possible de toute sa vie. Elle était une prostituée. Deuxièmement, au dedans, il y avait juste un peu de lumière parce qu'elle avait une conception de ce que le Messie allait être. Et Jésus se trouva entre les deux quand il accomplit le signe messiaque. Qui leur a montré qui il était. Et cela a noirci toute la chose pour ces pharisiens. Ils sont retournés à la noirceur. Ils n'avaient rien dedans pour s'y ancrer. Ils l'ont appelé Belzébul, un démon. Et cette lumière qu'ils avaient est sortie. Ils ont péri en cela. Voici cette femme aussi enfoncée dans le péché qu'elle pouvait l'être. Mais dans son cœur, elle savait que ce serait le Messie. Elle savait quel signe il montrerait. Et dès qu'il lui a dit, « Donne-moi à boire », elle a dit, il contactait son esprit pour voir où elle se tenait. Elle a dit, « Ce n'est pas ma coutume. » Il a dit, « Si tu connaissais celui qui te parle, tu me demanderais toi-même à boire. » Et la conversation a continué directement. Il a trouvé exactement où ses pensées se trouvaient et ce qui était dans son cœur. Elle savait alors que lorsque le Messie viendrait, le Messie devait être Dieu. Dieu est la parole. La parole discerne les pensées du cœur. C'est ce qui se trouvait dans les prophètes. Cette femme en reconnaissait davantage que la moitié des prédicateurs en Amérique ce soir. C'est vrai, c'est exactement vrai. Elle est dans cette condition, mais elle était destinée à recevoir la lumière. Et aussitôt que la lumière a frappé, et elle pensait qu'elle n'était qu'un homme ordinaire, peut-être une proposition, elle a dit, « Eh bien, nos pères ont adoré sur cette montagne. Tu dis que le lieu où il faut adorer est Jérusalem, étant un juif, et toute la conversation. » Il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Et elle a dit, « Je n'ai pas de mari. Tu as bien dit, tu en as cinq. Regardez ce petit rayon de lumière, à savoir qui il était. Il semblait qu'il pouvait en être ainsi. Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que lorsque le Messie viendra, c'est ce qu'il fera. » Il a dit, « Je le suis. » Elle a dit, « C'est réglé. Toute sa noirceur était rendue blanche. Tout le blanc des pharisiens était rendu noir en le rejetant. C'est la différence. La lumière brille à travers la parole, voyez, parce que son nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Elle l'a immédiatement reconnu. Cela a pris cette petite semence qui dormait derrière toute cette saleté vulgaire et tout ça. Il l'a nettoyée. C'est pour cela qu'il est venu, pour nettoyer cette race que le Père lui a donnée avant la fondation du monde. Amen. Je me sens religieux quand je sais que c'est la vérité. C'est d'abord celui qui veut ou celui qui court, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas combien vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Personne n'a cherché Dieu. Dieu vous a cherché. Et quand la lumière a brillé, les pharisiens ont dit, « Oh ça, j'ai entendu ça avant, c'est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure. » Ensuite, tout est devenu noir. Et cette petite femme, souillée ici et blanche, en dedans ici, elle a dit, « Je sais que lorsque le Messie viendra, je le cherche. Quand il viendra, il fera cela. Tu dois être son prophète. » Il a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. N'est-ce pas la parole qui discerne les pensées du cœur? N'est-ce pas le Messie? » Elle devrait se trouver aux États-Unis en train de prêcher ce soir, autant que je suis contre cela. Et elle devrait être ici à faire quelque chose comme ça, montrant à certains de ses confrères ce qu'est le Messie. Remarquez, une fois à l'intérieur, il a ouvert leurs yeux, puis il s'est révélé par l'Écriture. Maintenant, il a ouvert leurs yeux, puis quand il a dit cela, il est entré. Il a dit, qu'est-ce qui entrait? La révélation, cette semence qui était là quand cette lumière du Fils brilla dessus. Vous pouvez prendre une semence et l'enterrer sous une roche. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y avait des graines de tournesol. Il y avait eu dans un emballage depuis près de 4000 ans en Égypte. Ils ont pris cette graine et un peu de ce blé qui était dans le grenier que Joseph avait mis là toutes ces années. Et quand on l'a placée dans le sol et que le soleil l'a frappée, elle vivait. Ce germe de vie était demeuré là. Oh mon frère, alors que nous avons été ordonnés de Dieu avant la fondation du monde pour être fils et filles de Dieu, quand cette lumière la frappe, il n'y a pas de dénomination, pas de frontière d'église, il n'y a pas de critique, rien ne va l'arrêter. Elle va vivre parce que Dieu l'a dit. Ils l'ont reconnue, ses yeux s'ouvrirent. Et elle le sut. Et elle le sut une fois à l'intérieur. Elle connaissait l'Écriture, c'est la raison pour laquelle elle l'a reconnue. Ses disciples, après sa résurrection, ne connaissaient pas l'Écriture. C'est pour ça qu'ils ne le reconnaissaient pas. Et c'est ainsi que les pharisiens ne le savaient pas. Il a dit, « Sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Oh, la confirmation de son être. Alors, quand la promesse fut confirmée, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. En outre, la même chose qui avait ouvert les yeux a aussi fermé les yeux. Ceux qui s'en sont moqués ont été éternellement renvoyés là où ils étaient au commencement, vous voyez, cela a fermé leurs yeux. Les yeux de Pierre ont été ouverts par la même chose. Ils s'y attendaient, les yeux de Nathanaël, Jésus a dit qu'il les connaissait avant la fondation du monde, qu'ils allaient être ses messagers. Maintenant, en dépit de tout cela, dans cet âge où nous vivons, qu'est-ce que cela a fait à vos yeux? Bon, c'est la question, pas de ce que cela a fait aux heures. De quel côté êtes-vous ce soir? Maintenant, vous devez être associé soit aux pharisiens, ou associé aux apôtres, ou aux croyants. Maintenant, cela fait quelque chose pour vous. Vous êtes simplement mis au pied du mur. Cela a fait quelque chose. Si vous aviez vécu ce jour-là, qu'est-ce que vous auriez fait? À quoi votre état actuel vous identifie-t-il maintenant? Où cela vous place-t-il? Pensez-y. Eh bien, mon Église, c'est ce que les pharisiens ont dit, voyez. Êtes-vous prêt à reconnaître Jésus-Christ par la puissance de sa résurrection? Êtes-vous prêt à tout abandonner et à marcher avec lui? Êtes-vous prêt à le croire en présentant sa lumière et sa vie aux autres? Qu'est-ce que cela a fait? Comme il est révélé en ces derniers jours, il l'a promis. Maintenant, vous dites, frère Branham, le Messie était révélé là. Je sais que l'Écriture l'a dit. Eh bien, il est promis que ce même Messie se révélerait aujourd'hui. Même chose. Maintenant, Hébreux 13:8, écoutez maintenant, identifie comme le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jean 14:8 dit, celui qui croit en moi, voyez, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Jean 14, ici nous voyons, il a dit encore un peu de temps, et le monde, le cosmos, ne me verra plus. Ils seront complètement aveugles. Ils ne me verront plus. Donc, un peu de temps, ils ne me verront plus. Mais vos yeux seront ouverts, car vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. De même hier, aujourd'hui et pour toujours. Luc 17, 28, il a dit, Jésus a dit que dans les derniers jours, l'état du monde serait comme il était quand les gentils ont été détruits à Sodome et à Gomorre. Pas au temps de Noé, comme le déluge, il cite l'immoralité sur le soleil, mais il a dit comme il en était au jour de Sodome. Maintenant, c'est un monde de gentils qui a été détruit par le feu. Dieu a mis un arc-en-ciel dans le ciel, plus par l'eau, mais par le feu cette fois-ci. Maintenant, le monde des gentils est prêt pour la destruction. Il a promis qu'il y aurait une grande perversion sur la terre. Si vous avez déjà vu certaines de ces images, la façon dont les femmes s'habillent là-bas, ce bleu sous les yeux, on dirait qu'elles sont en décomposition. Regardez ce qu'elles font aujourd'hui, l'immoralité, la perversion. Oh, certaines des choses les plus hideuses, et cette nation est complètement engloutie. Elle mène sur le reste du monde pour les divorces. Nos femmes ont perdu leur moralité courante. Elles ont brisé la colonne vertébrale de la nation. Et toute la moitié de ces choses en Amérique sont fondées sur le sexe, tout. Leur whisky, leur tabac et tout le reste. Les médecins disent, c'est du poison, cela vous tue. Ils continuent de fumer quand même. Ils le feront de toute façon, ils n'ont aucun sens d'urgence. Les Écritures disent qu'elles ne doivent pas couper leurs cheveux et ces choses. Je ne parle pas des femmes du monde, ça, la chair à canon. De toute façon, je parle de vous, les femmes pentecôtistes. Vous connaissez mieux que ça. La Bible a dit que les cheveux de Samson le séparaient. Une naissance nazaréenne le séparait par la parole de Dieu. Les femmes, cela ferait la même chose de vous, une personne séparée. Et un Nazaréen est séparé pour la parole, loin des choses du monde. Et vous le prêchez, vous le criez, vous le hurlez, et revenez l'année d'après. Et c'est pire que lorsque vous étiez là. Il ne reste plus que le jugement divin de Dieu, les bombes atomiques et les missiles et ces choses pour le monde entier. Les comédiens à la télévision disent, et à la radio et tout, ils sifflent et chantent, racontant des histoires sales, prononçant des mots maudits, des choses horribles qui ne devraient même pas être permises. Et tous les magazines et ces choses sont remplis de femmes nues, immorales, tout. Essayant d'apaiser l'esprit, essayant de vous calmer. Cela me rappelle un petit garçon sifflant dans le noir, traversant le cimetière et essayant de se faire croire qu'il n'a pas peur. Vous avez peur à en mourir et vous savez que vous êtes en voie du jugement. Et ça s'en vient parce que vous avez blasphémé le Saint-Esprit et que vous avez refusé Jésus-Christ ressuscité. Précisément, leurs yeux sont fermés, ils ne le savent pas. Sodome et Gomorre, Jésus a dit comme on était à Sodome et à Gomorre, comme je vous l'ai répété hier soir. Il n'y a jamais eu aucun temps dans l'histoire qui a été semblable à celui-ci. Regardez, Lot, il y a trois classes de gens. Lot représentait l'Église nominale. Il est allé à Sodome, là où les femmes avaient coupé leurs cheveux. Ils avaient de grandes choses. Lui était l'un des dirigeants de la ville et de grandes choses comme ça. Et laissez-moi passer. Mais en réalité, dans son cœur, son âme était vexée. Il connaissait mieux. Il avait demeuré avec Abraham. Abraham n'avait jamais allé au commencement. Il était l'élu à qui Dieu avait fait la promesse. Il attendait un fils promis. Sodome était encore dans sa question. Et rappelez-vous, ces deux anges sont allés là-bas pour prêcher. Un seul est resté avec Abraham et son groupe. Maintenant, regardez, ils sont allés là-bas pour prêcher. Et souvenez-vous, depuis que nous sommes dans les âges de l'Église, il n'y a jamais eu d'homme envoyé à l'Église dont le nom finit par H-A-M jusqu'à maintenant. G-R-A-H-A-M. Le messager de l'heure pour l'Église de Babylone, là-bas à Sodome. Le grand évangéliste fait aussi un excellent travail. Il les écorche à droite et à gauche. Ils ne font pas attention à cela. Il a dit, je vais avoir 30 000 convertis en 6 semaines. Je reviens 6 semaines plus tard, il n'en reste pas 30. Quel est le problème? Ils ne font nulle part. Ils s'avancent en mâchant du chewing-gum, en fumant des cigarettes et tout le reste pour faire une confession, ce qu'ils appellent une décision. C'est très bien que l'évangéliste la porte comme Dieu l'a dit. Pour moi, ce n'est pas une décision, c'est une naissance. Vous devez naître. Il n'y a qu'une chose qui doit se passer. Nous y voilà quand même. La H-A-M. Notez ici sur la colonne, il y en a un qui est resté avec Abraham, mais regardez quel genre de signe il a montré. C'était l'ab. Dieu avait montré à Abraham signe après signe. Mais ce fut le dernier avant l'arrivée du Fils promis, le dernier. L'homme, il ressemblait à un homme. Il n'était qu'un homme, habillé simplement. La poussière sur ses vêtements, il disait qu'il avait voyagé. Abraham a lavé ses pieds. Et quand il s'est assis là, son dos tourné à la tente, regardez, maintenant il a dit Abraham. Un jour ou deux avant, il était Abraham. Et elle était Sarahi. S-A-R-A-I. Maintenant, elle est Sarah, princesse. Il n'est plus Abraham. Abraham, le père des nations, il a dû changer son nom. Remarquez, il a dit Abraham, où est ta femme, Sarah? Maintenant, souvenez-vous, il avait 100 ans, il avait 90 ans. Il a dit, elle est dans la tente derrière toi. Il a dit, je vais vous visiter selon la promesse, voyez? Ce qui était les 28 jours avec Sarah. Sarah rit, comme on dirait, dans sa manche. Elle se dit, « Moi, une vieille femme, avoir du plaisir avec mon Seigneur, lui aussi est vieux. » Il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle douté en disant dans son cœur, comment ces choses peuvent-elles être? » Et elle l'a nié. « Oui, tu l'as dit. » Jésus a dit, « Tout comme c'était, regardez maintenant, comme Abraham a-t-il reconnu cela? » Maintenant, Abraham l'a appelé Elohim. Combien savent que c'est vrai, les lecteurs de la Bible? Oui, monsieur, Elohim est l'entièrement suffisant, le grand créateur lui-même. Pourquoi l'a-t-il appelé Elohim? Parce qu'il pouvait discerner les pensées qui étaient dans le cœur. C'est la parole. Hébreux 4 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'os et la moelle, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est pourquoi les prophètes, Jésus les a appelés des dieux. C'est ainsi que Jésus s'est prouvé lui-même, et cette femme savait qu'il était la parole. Il pouvait discerner les pensées. Et Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme sera révélé. Qu'est-ce que cela a fait à vos yeux? Peut-il entrer ce soir? J'espère qu'il le peut. Rappelez-vous simplement, soyons respectueux et croyons de tout notre cœur. Il a promis, rappelez-vous, Malachie 4, un message allait venir qui restaurerait la foi des pères à nouveau, ramenant la foi des enfants au Père. Ô enseignant pentecôtiste, que Dieu ouvre vos yeux aveugles en ce jour, loin de vos indifférences de dénomination, de vos credos et des choses dont vous êtes si orgueilleux pour lesquelles vous combattez et regardez le Fils de Dieu quand il était là. 2000 ans, il est toujours vivant et parmi nous ce soir, confirmant sa promesse. Puisse Dieu ce soir, comme il nous a rassemblés, comme il l'avait fait pour eux à Emmaüs, fermer les portes et nous révéler quelque chose. Rappelez-vous la raison pourquoi ils l'ont reconnu? Il l'a rompu comme il l'avait fait avant qu'il soit crucifié et là, il a disparu devant eux. Pour s'éloigner d'eux, il l'a fait de cette façon. Puisse-t-il venir ce soir parmi nous et ouvrir nos yeux en se révélant à nous par les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur terre parce qu'il l'a promis. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que le Seigneur nous aide à le voir comme il nous apparaît. Courbons la tête. Quel est mon objectif? Quel est le motif de mon objectif? Seigneur Dieu, je ne peux pas dire oui ou non. Tu es celui qui convainc de ceci. Tu l'as promis. Et je prie que tu laisses les gens voir et comprendre ce soir. Laisse-les une fois, Seigneur, ouvrir leur cœur grand ouvert, dire « Entre, Seigneur, révèle-toi maintenant. » Et que leurs yeux s'ouvrent alors pour le réaliser. Qu'il n'y ait plus de pécheurs dans le bâtiment ce soir, un incroyant. Oh, il pourrait y avoir ceux ici qui me repoussent le fait que je les appelle un pécheur. Mais Père Dieu, tu les as appelés pharisiens, qui étaient religieux, et des religieux assidus des démons. Tu as dit, vous avez pour père le diable et vous faites ses œuvres, parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole confirmée, le Messie. Ils pouvaient le croire dans l'esprit, mais dans la chair, non. Et pourtant, leur écriture qui disait qu'il serait Dieu avec nous. Père, je prie ce soir que tu l'accordes à nouveau. Y a-t-il quelqu'un ici qui a besoin que ses yeux s'ouvrent? Donne-leur le collyre que tu as promis dans Apocalypse 3 à l'âge de Laodicée. Achetez un collyre pour que leurs yeux puissent être ouverts ce soir afin qu'ils reconnaissent l'heure dans laquelle nous vivons et la confirmation de la promesse de Dieu en cette heure. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Quelle carte de prière? K. Où avons-nous? Nous avons commencé au numéro 1 hier soir, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, encore 15-20 minutes. Commençons. Il a donné les cartes de prière K. Maintenant, tenez votre carte. Nous allons appeler chacune d'entre elles. Ceci, quelque chose maintenant, après avoir parlé par le passé, quand quiconque avait parlé, qu'il avait apporté la parole, vous vous en souvenez? J'entrais simplement, je commençais la ligne de prière. C'était beaucoup plus facile. Mais aujourd'hui, je dois faire autre chose, voyez. Je dois apporter ceci, c'est tout. Si elle est reçue, je peux juste semer la semence. Je ne peux pas la faire en vivre. Elle doit tomber dans la bonne terre. Vous savez, sa propre semence qu'ils ont dit qu'il a semée. Certaines sont tombées au bord du chemin, n'ont rien donné du tout. Certaines sont tombées dans les épines, mais et sur un sol pierreux. Mais certaines sont tombées dans la bonne terre. C'était le Fils de Dieu. Je ne peux que semer des semences de la même manière. Puisse-t-il prendre mon ignorance, la mettre de côté, et prendre mon cœur, qui je crois en lui, et regarder en bas et voir si je l'aime ou non. Puis-je me pardonner tous mes péchés, m'utiliser d'une manière ou d'une autre, afin qu'il puisse obtenir la gloire au travers de moi. Par la vie ou la mort, ça n'a pas d'importance, autant qu'il soit glorifié. Maintenant, je demande à chacun, au nom du Seigneur Jésus, s'il vous plaît, de rester assis juste pendant quelques minutes. Ne vous prenez pas. Ce sera toujours comme ça. Pouvez-vous imaginer l'expectative de l'apparition de Jésus-Christ? Maintenant, si je marchais ici en tant qu'homme et que je dis « Je suis le Seigneur Jésus » avec des cheveux longs, nous ne savons pas s'il les avait longs ou non. J'ai des cicatrices dans mes mains, ouais. N'importe quel hypocrite peut faire ça. J'ai de l'huile, du sang et tout. Cela encore n'est pas l'Écriture, n'a pas promis ça. Comment reconnaîtriez-vous Jésus? Vous dites « Eh bien, je ne reconnaîtrai pas sa photo. » Non, cela est peint par une représentation. Nous ne savons pas ce qu'il avait l'air, voyez. Je ne sais pas ce qu'il était, c'est, voyez. Il doit être ainsi. Rebecca ne savait pas qu'Isaac avait l'air. Isaac avait l'air, mais c'était l'amour de toute façon. Elle ne savait pas ce qu'il avait l'air. Elle devait simplement partir, en type. Elle l'a vu, elle l'a aimé, elle est disposée à partir. Maintenant, comment le reconnaîtrais-je? Jésus a dit, à leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Maintenant, si Jésus était ici, il ne serait pas sous une forme physique comme moi, parce que ce corps se trouve à la droite de la majesté. Mais sa vie est ici. Et souvenez-vous, c'est la dernière promesse, le dernier signe que l'Église reçoit avant le signe promis, le retour du Fils promis. Cette écriture ne peut pas être brisée, vous savez. Immédiatement après Sodome, le Fils promis arriva et Sodome était brûlé. Il en sera de même. Appelons à partir de la carte de prière, disons, qu'est-ce que nous avions? 1 à 15 hier soir, prenons-en encore 15, de 85 à 100. Carte de prière K, c'était ça, K, 4, 85, 1, qui l'a? Levez la main. Oui, est-ce que quelque part, 85, venez ici. 86, 87, 88, 89, 90, dans les cas, 90, 95, 100. Alignez-vous ici pendant que je parle au reste de l'Assemblée. Combien ici n'ont pas de carte de prière et vous êtes vraiment sincère et vous voulez que Dieu vous aide? Levez la main. Je n'ai pas de carte de prière, frère Bonhomme. Bon, regardez. Maintenant, ne vous promenez pas. Laissez ceux qui viennent monter ici juste une minute. Soyez réellement respectueux maintenant, juste pour quelques minutes. Pensez, nous sommes en présence du juge du ciel et de la terre. Quel respect auriez-vous si vous pouviez le voir ici? Vous seriez à genoux, en train de crier, de pleurer et tout. Mais il est ici, il a promis, là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom. Ça ne signifie pas juste que parce qu'on vous a dit, voici un nom. Cela veut dire en son nom. Je suis au milieu d'eux, remarquez. Maintenant, sont-ils tous là, ceux que j'ai appelés? Non, 85, était-ce que je l'ai appelé? Ou 90? Quelqu'un? 85 à 100. Tenez-vous ici. Il y a une personne ici sur un bancard. Que quelqu'un vérifie sa carte. Peut-être que l'homme ne peut pas marcher. Voyez, si, regardez si c'est son numéro. Je vois qu'il y a une carte de prière dans sa main. Si c'est lui, eh bien, vous pouvez l'amener dans la ligne. K85 à 100. Il y a quelqu'un qui ne peut pas se lever. Peut-être que quelqu'un est sourd. Regardez les cartes autour de vous. Et pendant que vous le faites, regardez-moi ici. Le reste entre vous. Croyez-vous que lui, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous? Le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Vous croyez cela? Alors, ce que la parole a toujours fait, elle discernait les pensées du cœur. C'est pour ça que les gens savaient que Jésus était le Messie. Est-ce vrai? Combien le savent? Maintenant, il y avait une petite femme, une foi, qui croyait que si elle pouvait toucher son vêtement, elle serait guérie. Vous vous souvenez de l'histoire? Maintenant, souvenez-vous, elle a seulement cru. Elle était alors dans sa forme physique. Et souvenez-vous, elle ne l'a fait qu'une fois. Il a seulement dit à la femme ce qu'elle avait fait. Elle avait trop de maris. Et cette ville entière de Sichar a cru en lui. À cause du témoignage de la femme et elle, une prostituée. Et maintenant, ils ne croiront pas si un ministre rempli de piété, ordonné par Dieu avec l'Évangile, pouvait leur dire. Ils ne le croiront toujours pas. Voyez? Voyez? Juste si empâté, ténébreux, peut-être honnête, le monde entier, on dirait qu'il est couvert d'une pression. Je ne sais pas combien l'expliquer, mais c'est ici. Mes amis, réveillez-vous. Il est plus tard que nous le pensons. Maintenant, restez assis là et regardez vers lui. Maintenant, la Bible dit dans Hébreux 4, il est un souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Est-ce vrai? Maintenant, s'il est ce souverain sacrificateur et que vous l'avez touché et que vous le touchiez comme cette femme l'a touché, car il n'a pas ressenti le contact physique, il a dit, je sens que j'ai faibli. La vertu est sortie de lui. Maintenant, s'il est toujours le souverain sacrificateur, vous pouvez encore tirer de la vertu de lui parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, comment fait-il? Comment Dieu l'a dit? Au jour de Sodome, quel était ce signe? Dieu, Elohim, dans un homme qui mange, boit. Comprenez-vous cela? Jésus était Dieu dans un homme. C'est la raison pour laquelle ils discernaient leurs pensées. Dieu dans l'homme. Il le fait à nouveau. Il a déclaré que cela se reproduirait dans les derniers jours. Quand il serait révélé, il en serait comme au jour de Sodome. Des dizaines d'écritures qui ont été examinées. Mais ce n'est pas nécessaire que vous ayez l'interprétation. Dieu l'interprétera si c'est juste. Il va prouver que c'est juste. Maintenant, ayez la foi et croyez. Un seul mot de lui devrait tout régler. Maintenant, Père Céleste, c'est ta parole au meilleur de ma connaissance. Maintenant, tout est dans tes mains, Père. Je m'en remets à toi avec cette assemblée. Permets ce soir que, lorsque nous partions d'ici, nous puissions dire, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, comme nous, notre Seigneur Jésus, nous, sous la forme du Saint-Esprit, nous a parlé pendant que nous étions là. Accorde-le, Père. Je prie au nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Maintenant, ayez la foi, croyez. Je pense que Frère Perry va déplacer ceci par une minute. Et maintenant, rappelez-vous, je ne connais pas ces gens. Je connais ces ministres ici, je connais chacun d'eux, mais je ne vois personne d'autre que je connais. Je sais qu'il y a des gens là-bas que je ne connais. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est Frère Pat Tyler, assis juste ici. Je ne suis pas sûr, assis juste. Dans la ligne de prière, si vous savez que je ne sais rien de vous, levez la main. Vous qui êtes dans cette ligne de prière, qui avez une carte pour venir, levez vos mains. Oui, monsieur, maintenant, là-bas, vous le savez aussi. Voici la vérité. S'il est ressuscité des morts, il a promis que Dieu se ferait connaître dans une chair humaine. Maintenant, peu importe combien il me oint, vous devez être loin de la foi pour le croire, vous voyez. Il nous faut les deux. La femme qui a touché son vêtement, elle devait croire. Sinon, elle aurait continué son chemin, voyez. Elle devait le croire, voyez. C'est Dieu. Maintenant, si quelqu'un pense un don est un long grand couteau, Dieu vous fait un don, vous pouvez le prendre et le trancher et faire, vous avez la mauvaise conception d'un don. Donc, c'est de savoir comment vous enlever du chemin et laisser Dieu faire ce qu'il veut faire. Voyez, c'est de savoir comment vous détendre, que Dieu puisse vous utiliser de la manière qu'il l'entend. Simplement vous enlever du chemin, voyez. Maintenant, je ne connais aucune de ces personnes. Je ne connais pas cette personne ici. Voici une dame debout ici. Elle ressemble à ma bien-aimée qui vient de partir dans la gloire récemment. Ne serais-je pas qu'un horrible homme si ma mère pouvait regarder de la gloire ce soir, penser que je viendrais ici pour tromper une pauvre personne comme ça? Quel objectif aurais-je? Je serais fou. Je suis ici pour essayer de vous aider, madame. Et tout ce que je peux faire, c'est de faire ce que je suis chargé de faire. Je ne peux pas faire en sorte que les gens croient. Je ne peux pas faire en sorte que quiconque croit. Seulement, je ne suis pas un théologien. Je ne me dis pas un prédicateur, voyez, parce que je n'ai pas d'éducation. Un prédicateur aujourd'hui est quelqu'un qui possède son baccalauréat en art ou son doctorat. Bon, je ne connais pas ces choses. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, il a dit, vous n'utilisez pas vos noms et nos pronoms correctement. Je ne sais pas ce que c'est, je ne savais pas ce qu'était un nom ni un pronom. Je ne pourrais pas vous dire, en dépit de ma vie, la différence entre un nom et un pronom. Je ne peux pas vous le dire. Mais une chose que je sais, je le connais, lui, la puissance de sa résurrection, c'est tout ce qui me préoccupe. Vous voyez, lui, il est celui, il est, c'est ce qui m'intéresse. Maintenant, madame, si le Seigneur Jésus me révèle quelque chose que vous avez fait, quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, ce qui vous amène ici, comme il a fait avec la femme, il a dit ce qui n'allait pas avec elle, peut-être qu'il dira ce qui ne va pas avec vous. Si c'est le cas, vous saurez que c'est la vérité ou pas. Vous serez témoin de cela. Est-ce que cela vous fera? Vous sauriez alors qu'il y a quelque chose qui devenait quelque part. Ça ne peut pas être naturel. Il faudrait que ce soit surnaturel, d'accord? Cela ferait-il en sorte que vous croyez que cette parole que j'ai dit, c'est Dieu interprétant sa parole, qu'alors c'est Dieu qui la confirme? Est-ce que l'Assemblée le croira aussi? Soyez respectueux maintenant. Rappelez-vous, soyez réellement respectueux. Vous dites, vous êtes dépourvu, frère Bonhomme? Oui, certainement, je ne connais pas la femme. Il va falloir autre chose, l'ange du Seigneur, le Saint-Esprit lui-même. Cette colonne de feu a conduit les enfants à travers Israël. Israël dans le désert, voyez, quand il était là, il était Jésus. Moïse a estimé l'opprobre de Christ une richesse plus grande que celle de l'Égypte. Il a écarté l'Égypte. Quand Jésus était ici sur terre, il dit, je viens à Dieu et je vais à Dieu. Il est mort, a été enterré, est ressuscité, il est monté. Et Saül, sur son chemin vers Damas, il fut jeté à terre par cette même lumière. Et ce juif n'aurait jamais appelé une certaine lumière Seigneur. Il a dit, Seigneur, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur qui avait conduit son peuple à travers le désert. Il a dit, je suis Jésus, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, si cette même lumière est parmi nous, voyez, alors elle se confirme en produisant ce qu'elle a fait là-bas. Maintenant, s'il fait cela, n'est-ce pas que cela nous fera croire et être heureux? Puisse-t-il l'accorder? Je veux vous contacter pour dire quelque chose, voyez. Lorsque vous vous enlevez du chemin, ça monte considérablement et tout mot que vous dites, quoi qu'il soit, voyez, vous êtes un être humain avec un esprit et quel que soit cet esprit, dès qu'il me oint, je peux voir exactement ce qu'il en est, de quelle façon vous allez là, par là. C'est un don de Dieu. C'est comme ça qu'il faisait, il parlait de la femme. Même chose, exactement la même chose. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Vous voulez que je prie pour quelqu'un d'autre. Et cette personne est à l'hôpital. Oui, et c'est la tuberculose. C'est votre mari. C'est vrai. Et une autre chose que j'ai vue, il est couvert de l'ombre de la mort. Il a un esprit sombre sur lui parce qu'il n'est pas chrétien. C'est vrai. N'est-ce pas vrai? Voyez? Il n'est pas un chrétien. Il est couvert de l'ombre de la mort. Et vous désirez vivement qu'il reçoive Christ. Et je vois que vous aussi, vous avez des problèmes. Ils s'attendent à ce que vous ayez une tuberculose ou quelque chose d'autre. C'est ça, vous avez passé un rayon X ou quelque chose. Ils ont juste passé un rayon X pour la tuberculose. C'est vrai, n'est-ce pas? Maintenant, allez-vous croire de tout votre cœur. Maintenant, tout comme vous l'avez cru, tout ce que vous avez cru que ceci était, maintenant qu'il savait cela, tout comme vous l'avez cru, allez vers lui, dites-lui ce qui s'est passé. Et peut-être que cet esprit sombre le quittera et sera sauvé. Alors il se lèvera et rentrera à la maison. Croyez de tout votre cœur. C'est à vous d'en juger comme vous le souhaitez. Ça dépend de vous maintenant. Comment allez-vous, madame? Je suppose que nous sommes étrangers l'un l'autre. Mais vous croyez que Dieu peut me révéler vos problèmes? S'il le voulait, cela vous ferait croire grandement, n'est-ce pas? Cet homme vient d'ici, je vois. Il avait cru il y a quelques minutes. Non. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre aussi. C'est votre mari. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut me révéler ce qui ne va pas avec votre mari? Le croyez-vous? Il a un hernie. C'est vrai. Il y a ici un enfant qui a une affliction pour laquelle vous priez aussi. Croyez-vous que cela se produira aussi? Très bien. Croyez de tout votre cœur maintenant, tout comme vous avez cru, qu'il en soit ainsi. Voyez-vous? Je ne peux pas guérir. Je ne peux que prononcer, voyez, ce que je vois. Croyez de tout votre cœur, ce sera comme vous l'avez cru. Vous le croyez, le Seigneur vous bénit, que Dieu vous bénisse. Ne doutez pas. Ayez la foi, juste, vraiment respectueux. Maintenant, si vous commencez à vous promener, restez assis, vraiment gentiment, restez comme ça. Comment allez-vous, monsieur? Je ne vous connais pas. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Nous devons nous rencontrer à la barre du jugement de Christ pour répondre à notre présence ici ce soir. Vous le croyez, n'est-ce pas? Oui, certainement. Je surveille une lumière. Monsieur, voyez, elle est loin, le Saint-Esprit. Maintenant, vous souffrez de maux d'estomac. Votre estomac vous dérange, c'est vrai. Et vous avez une chose que vous essayez de vous défaire, une habitude. Et c'est vraiment la cause de votre estomac. Cela va bientôt se changer en cancer si vous n'arrêtez pas de fumer. Croyez-vous que Dieu va vous enlever et vous l'enlever et vous guérir? Vous croyez? Croyez-vous que si je vous impose les mains maintenant, alors que vous savez que quelque chose est ici et vous semble mystérieux, mais cette onction de Christ, si je lui demande de vous enlever cette chose et de vous guérir, vous pourrez la laisser tomber et vous éloigner? Croyez-vous cela? Venez ici, monsieur. Satan, sur la base de notre foi, la présence de Jésus-Christ qui a triomphé sur toi et tous les tiens, je chasse ce démon qui est en train d'envoyer cet homme à une tombe prématurée avec ses cigarettes. Sors de lui dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Allez maintenant, c'est terminé. Croyez et vivez comme vous le devriez. Croyez-vous? Continuez simplement à croire. Comment allez-vous? Une dame au regard vraiment spécial, amical. Croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Croyez-vous que je suis son serviteur? La raison pour laquelle je dis cela, quand avez-vous déjà lu mon livre? Il a dit, si tu peux amener les gens à te croire, voyez, c'est la chose principale, vous devez le croire, vous avez juste, il n'y a pas d'autre façon d'approcher Dieu par un don que d'y croire. Comme Martha a dit, je crois que tu es le Fils de Dieu. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, voyez. Elle s'est approchée convenablement quand elle avait le droit de le réprimander, de ne pas être venue. Elle ne l'a pas fait. Elle s'est approchée avec respect et elle a obtenu ce qu'elle a demandé. Maintenant, croyez-vous que Dieu est présent et qu'il connaît tout? Et vous croyez qu'il est capable de me révéler ce qui ne va pas avec vous? Le problème est dans l'estomac. Vous avez des complications, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et vous avez des complications, c'est une grosseur dans l'estomac. C'est juste à ce sujet, c'est vrai. Très bien. Mademoiselle Whitley, retournez chez vous. Croyez de tout votre cœur et vous irez bien. D'accord, vous trouvez étrange que j'ai dit votre nom? Il vous connaît aussi, voyez-vous? Comment allez-vous? Maintenant, vous avez un problème de femme. Et cela montre qu'il est dans les ovaires. C'est un kyste dans les ovaires. Croyez-vous que Jésus-Christ peut enlever ce kyste? Je devrais vous dire ce qui est arrivé à ma femme tout récemment, voyez, quand vous avez entendu le témoignage. Eh bien, pourquoi le vôtre ne serait-il pas comme le sien? D'accord, ce serait ainsi si vous le croyez de tout votre cœur. Regardez ici, jeune femme. Le vôtre est aussi un trouble féminin, un désordre gynécologique. Croyez-vous que Jésus-Christ est présent pour vous redonner la santé et vous guérir? Et vous croirez alors que tout va disparaître, que ce sera terminé, que vous rétablirez et que vous vivrez une vie normale? Très bien. Allez, croyez-le maintenant, ce sera simplement ainsi. Croyez-vous que Dieu peut guérir le diabète sucré aussi, vous rétablir? D'accord? Continuez simplement de traverser l'estrade en disant « Je crois en lui » et vous en remettrez de cela si vous croyez simplement. Une transfusion sanguine du calvaire va le faire. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'auditoire. Je ne l'ai pas saisi tout à fait. Une dame est assise ici me regardant. Elle souffre de problèmes d'estomac. Croyez-vous que Jésus-Christ vous rétablit? Juste à côté d'elle, une femme souffre d'un problème cardiaque juste derrière là. Il y a juste derrière, portant un chapeau sombre avec un problème cardiaque. Vous l'aviez également, vous l'aviez. Voyez, j'ai dit que vous l'aviez. Vous êtes toutes deux libres maintenant. Jésus-Christ vous rétablit. Très bien, prenez la route alors et Dieu vous bénisse. Ayez la foi, croyez de tout votre cœur. À votre âge, vous avez des complications. Beaucoup de choses vont mal. Mais l'une des principales choses pour laquelle vous voulez que l'on prie, c'est aussi votre cœur. Croyez-vous qu'il vous guérira, le trouble cardiaque vous rétablira? Très bien, allez-y en croyant, disant merci Seigneur, vous aurez votre guérison. Une nervosité l'a dérangé longtemps, il lui a donné une dépression nerveuse, se levant la nuit, mais l'une des principales choses que vous avez, c'est ce diabète. Croyez-vous que Dieu peut vous guérir et vous rétablir? Continuez d'avancer en disant merci Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur. Dieu peut guérir toutes sortes de maladies du sang, anémie ou autre chose. Croyez-vous cela? Très bien, continuez simplement et Dieu vous rétablira, croyez-le. Comment allez-vous? Je vous vois essayer de vous lever du lit vraiment lentement. L'arthrite vous a presque... Mais vous croyez qu'elle va vous quitter ce soir? Que maintenant vous irez bien? Continuez à traverser l'estrade en disant « Merci Seigneur Jésus » et croyez de tout votre cœur. Croyez-vous de tout votre cœur? Laissez-le aller de l'avant. Il a été guéri là-bas de toute façon. Aussi juste, il l'a saisi lui-même malgré tout. Croyez-vous que le Seigneur Jésus peut guérir les problèmes d'estomac et vous rétablir et vous envoyer à la maison pour manger? Allez-y, croyez-le, et Jésus-Christ vous rétablira. Venez, madame, croyez-vous que ce problème de dos, problème, ces choses vous quitteront, alors vous traversez ici, continuez d'avancer en disant, je te remercie, Seigneur Jésus. Que pensez-vous tous? Est-ce là la chose à vos yeux pour ce jour-ci? Croyez-vous tous de votre cœur? Regardez simplement là-bas ce qui se passe avec les gens. Maintenant, vous, dans l'auditoire, croyez-vous, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, s'il est encore le Fils de Dieu? Oui. Ces gens qui vont s'asseoir sont tous heureux, ils se regardent, se réjouissent, se disant les uns aux autres les grandes choses que le Seigneur a faites. Une petite femme assise ici, souffrant d'un problème de dos, assise juste ici avec les cheveux gris, non, la madame derrière vous. Vous avez touché quelque chose, n'est-ce pas? Vous savez que ce n'était pas moi. C'était lui. C'était lui, le souverain sacrificateur. Croyez-vous de tout votre cœur que votre dos ne vous dérangera plus? Aimeriez-vous déposer sa cigarette et dire « Je ne les reprendrai plus jamais, monsieur. » La dame assise à côté d'elle. Vous avez essayé depuis longtemps, mais vous ne pouvez pas avoir la foi suffisante en quelque sorte. Vous croyez maintenant que vous avez la foi suffisante? Levez vos mains si vous dites « Je le crois maintenant. » Très bien, ne fumez plus. Rentrez chez vous et soyez bien. Agissez comme vous devriez le faire, si tu peux le croire. La petite dame assise ici avec le manteau rouge, me regardant, souffrant d'arthrite. Croyez-vous que Dieu peut vous rétablir, madame? Vous croyez? Très bien. Vous pouvez l'avoir, très bien. Cela vous a-t-il étonné, une sœur là-bas, la femme a des complications? Elle va le manquer. Dieu aide-moi. Madame Cox, croyez-vous? Très bien. Il n'a pas. Elle pensait qu'elle allait s'en tirer avec cela, mais il ne l'a pas fait. Vous l'avez saisi malgré tout. Disons louer le Seigneur, mes amis. Ne savez-vous pas? Monsieur, vous avez un cancer, une jaunisse. Vous ne pouvez pas vivre étendu là, c'est vrai. Je ne peux pas vous guérir, mais vous ne pourriez pas cacher ce qui ne va pas avec vous, vous voyez, c'est là. Vous ne pouvez pas vivre à rester là, vous le savez, parce que vous êtes fini. Ils disent que c'est dans votre estomac et ça l'est, c'est dans le foie. Et ils provoquent la jaunisse. Mais croyez-vous que votre cœur, êtes-vous prêt maintenant? Comme ces hommes qui gisaient à la porte de Samarie là-bas, ils ont dit, pourquoi resterons-nous ici jusqu'à la mort? Vous allez mourir à rester là. Vous avez seulement une chance, et c'est de l'accepter pendant que vous êtes dans sa présence, et croyez-le de tout votre cœur. Ferez-vous cela? Alors, Au nom de Jésus-Christ, croyez-le de tout votre cœur. Levez-vous, prenez votre lit et rentrez chez vous, remerciant Dieu et louant Dieu. Croyez-vous cela? Oh Dieu, va lui donner la force. Ne vous inquiétez pas de ça. Le voilà, prêt à prendre son lit, le plier et rentrer à la maison. Est-ce que le reste d'entre vous croit? Levez-vous debout maintenant. Qu'en est-il de vous, vous levant? Peu importe ce qui ne va pas chez vous, levez-vous, levez vos mains, donnez-lui la louange. Seigneur Jésus, ils sont entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ.